Chers auditeurs de Radio Sud, bienvenue dans cette nouvelle émission C'est ici, une émission consacrée à la vie locale. Aujourd'hui, nous allons participer à un atelier d'arpentage. Donc voilà, on va aller mesurer le terrain qui fait le tour de la bibliothèque. C'est bien ça de l'arpentage. Eh bien, figurez-vous que non. Arpenter, c'est un livre que l'on va arpenter. C'est-à-dire qu'on va lire le livre, puis partager des idées, des réflexions, dans une espèce de lecture collective. Voilà. Alors ça se passe dans le cadre du cycle « Moi et mieux », dont on a déjà parlé plusieurs fois, à la bibliothèque de Florentville, nous sommes. Et l'arpentage concerne le livre de Olivier Amand, Antidote au culte de la performance. Voilà, encore juste vous préciser que cela se passe à la bibliothèque de Florentville, qui est forcément partenaire. Nous avons aussi le Centre culturel du Beau-Canton, Change le monde, le CIEP, le CNCD, 1111. Voilà, comme ça vous savez à peu près tout. Alors, les auditeuristes de Radio Sud qui connaissent la bibliothèque de Florentville, un très bel endroit, on vient régulièrement, il y a tout un tas de petits papiers qui sont posés par terre, comme le plateau de la satisfaction, la jachère des vieilles lectures, la forêt sombre des idées obscures. Voilà. Il y a la mer de l'ignorance aussi, la mer de tous les défauts. Bien, alors je vois que les gens se sont installés, donc je vais poser mon micro de manière à capter ce qui se dit.
Du coup, moi je suis Martin, animateur au CIEP Luxembourg, avec mon collègue Jean-François, on est là pour donc animer cet arpentage, donc une méthode de lecture collective qui s'inscrit dans un plus grand cycle qui s'appelle « Moins et mieux » ici sur Florentville. Donc ce cycle, il est là grâce à le réseau Change le Monde, grâce au Centre culturel du Beau-Canton, grâce aujourd'hui à la bibliothèque aussi de Florentville, grâce au CNCD 1111 du Luxembourg belge. Je pense que j'ai fait le tour des différents partenaires et puis les différents partenaires qui viennent se greffer en fonction des projets aussi. On a eu le soutien de la commune, de la ville de Florentville aussi. Donc voilà, ici c'est l'activité qu'on a vous proposer pour ce début d'année. On suivra ensuite fin mars avec un film très à propos qui s'appelle « Moins et mieux », où ce sera dans le cadre des claps du mardi à l'espace Florentville, 31 mars, 20h, où c'est un ciné-rencontre. On projette le film et puis on en discute après.
Avant ça, il y a tic-tac-tic-tac.
Tout à fait. Je fais bien le 21 février, je crois. Voilà. Samedi 21 février, à la cuisine, à l'espace partagé à la cuisine. Tic-tac, l'accélération.
L'accélération. Résister à l'accélération.
Ouais, donc où là, ce sera Pierre Stassard qui viendra nous faire part de sa conférence gesticulée. Il en est un petit peu au début. Je ne veux pas dire que c'est un crash test, mais en tout cas, il l'adapte quand même toujours un petit peu, je pense, à sa conférence gesticulée. Et donc voilà, là, il faut s'inscrire parce que les places sont quand même vraiment limitées aussi. Et voilà, on vous souhaite une excellente soirée.
Merci.
J'espère que ça se passe bien. Je te laisse. J'allais demander s'il y en a qui avaient déjà participé à un arpentage, mais ça fait peut-être déjà partie.
Mais qui a déjà participé ici? Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer aux autres, puisqu'on est dans l'éducation populaire, est-ce que vous pouviez expliquer aux autres en quelques mots ce que c'est l'arpentage?
Il y a avec moi, il y a avec quelqu'un?
Là, il y a deux personnes.
Donc arpenter, c'est lire à plusieurs un livre, soit s'il est un peu épais, on le déchiquette et on donne un morceau à chacun. Et quand on a lu, on explique aux autres ce qu'on en a pensé et ce que sa partie raconte. Et s'il est tout petit, on ne le découpe pas.
Si on a assez d'exemplaires.
Voilà.
Ouais. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Oui, c'est vrai qu'apparemment, historiquement, on déchirait le livre. C'est issu du milieu ouvrier. C'était pour permettre un accès global à la culture dans une population où la culture était mal partagée. Et donc maintenant, on essaye de plus trop le déchirer. En tout cas, les deux arpentages que j'ai faits, on ne l'a pas déchiré. Et chacun lit son chapitre et puis le restitue après à l'ensemble du groupe. Comme ça, ça permet d'avoir une vision globale de l'ouvrage sans avoir dû entièrement le lire.
Mm-hmm. Petite précision quand même, on ne demande pas aux gens de faire un résumé, mais plutôt de présenter quelques concepts clés qui les ont marqués. Donc voilà, le but, ce n'est pas vraiment de connaître l'ouvrage dans son ensemble, assez particulièrement, c'est plutôt de débroussailler. et de rentrer chez soi avec une petite idée de ce que raconte l'ouvrage, mais aussi des choses qu'on a ressorties clairement, des réflexions qu'on a ressorties du bouquin. Donc ça permet de désacraliser l'ouvrage, puisqu'on le déchire. Hein. Chaque fois que je vais chez mon libraire, le pauvre, quand il me voit passer la porte, il dit oh « non, encore vous, vous venez hein ?» J'essaye de recycler, j'essaye de le faire proprement, et puis je relis les parties, comme ça je peux les réutiliser après. Moi, ce qui m'a plu dans l'arpentage, c'est que, autant quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'attention à la lecture, autant petit à petit, je suis passé dans la vidéo, et la lecture est quand même assez compliquée pour moi. Hein. Donc c'est aussi une manière de s'approprier un contenu en l'allégeant un petit peu, la lecture. Je dis la lecture, on peut aujourd'hui arpenter des vidéos, on pourrait arpenter des podcasts, etc. Hein, donc c'est vraiment un travail collectif. Ça permet aussi à tout un chacun de... on n'a pas tous la même lecture d'un bouquin. Hein, et donc de confronter notre vision des choses, de l'ouvrage, de ce qu'il contient. Et donc ça enrichit aussi la réflexion autour d'un ouvrage. On peut se tutoyer ?
Oui.
Voilà, tu l'avais dit, c'est les ouvriers qui ont fait ça, donc à partir du 19e siècle. On peut tout arpenter, on peut arpenter un règlement de travail ou un règlement de quoi que ce soit. Donc voilà, tout est vraiment arpentable pour autant que ça ait un minimum d'épaisseur et de contenu. Alors, ce que je vous propose, on va se dégourdir les jambes avant de faire la lecture. J'ai mis plein de petits papiers là à terre. Je vais vous demander de les lire, et quand vous les avez tous lus, de choisir celui qui se rapproche le plus de votre expérience usuelle de la lecture. Vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en fait, ceux qui ont créé ça ont à chaque fois pris un lieu pour exprimer là où on se situe par rapport à la lecture. Donc une fois que vous avez trouvé votre lieu, vous vous mettez à côté. Quand tout le monde aura trouvé son lieu, eh bien, on le lira et on dira une petite phrase en disant son prénom, peut-être d'où on vient et ce qui nous a attirés ici aujourd'hui à l'arpentage. Ça va ? Ça prend quelques minutes. Hein. Donc, tout est là-bas à terre. N'hésitez pas à vous balader.
Je vous disais tout à l'heure, les noms qui sont écrits, enfin, les petites phrases qui sont écrites sur le sol. Enfin, comme il vient d'être expliqué, donc les participants, les participantes ont choisi leur papier. Voilà, je pense que ça prend un certain temps pour se mettre en place. Il y a quelques hésitations. Mais voilà, ce sera bientôt terminé. Donc à ce moment-là, ce sera l'occasion pour chacun des participants de se présenter.
Je suis animatrice à la bibliothèque de Florentville. Je me trouve au rond-point des lectures en cours, car c'est à peu près ce qu'on peut trouver chez moi. Chaque pièce est un rond-point des lectures en cours. Il y a des tas de livres dans la cuisine, dans le salon, dans l'escalier, près des toilettes. Voilà, des lectures vraiment en cours, ou à venir, ou passées, mais voilà. Et l'arpentage, je ne connais pas, et donc j'étais contente qu'on accueille un arpentage. D'autant plus pour une lecture qui me semblait intéressante, puisque j'ai entendu Olivia Hamon en interview à la radio. Voilà.
Merci Isabelle.
Moi je veux bien, je suis plutôt bien aussi.
Bon. Petroni, pour inachevé, mais ça doit être un peu le même concept qu'Isabelle. Je pense que ça doit être une maladie de bibliothécaire, d'accumuler des livres et d'avoir toujours l'impression qu'on a beaucoup beaucoup à lire et d'avoir des piles chez soi. Donc voilà, ça fait partie du métier aussi, d'avoir toujours des lectures en cours, des lectures désirées, des lectures achevées, inachevées. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre.
Et là ce soir
Parce que j'aime bien les arpentages, ce sera mon troisième du coup, et puis pour accompagner ma maman aussi, qui s'était inscrite pleine de motivation.
Nous avons donc une arpenteuse semi-professionnelle, on peut dire.
Voilà.
Un troisième arpentage. Ok, qui d'autre ?
Bonsoir, moi c'est Justine. J'ai choisi le point de vue du décalage parce que je lis plein de trucs dans tous les sens, des magazines, des livres, des articles, etc. Et donc voilà, de toutes les sortes, de tous les goûts. Et c'est mon premier arpentage et j'espère découvrir une chouette technique.
Moi, je vais me lancer, hein. Alors bonjour, moi je suis Anne, moi je suis la maman de Pétronille, voilà. Je me suis inscrite toute seule et puis elle s'est sentie un petit peu m'accompagner. Et j'en ai choisi deux, déjà parce que je suis une indécise, voilà. Alors le premier, c'est d'abord le vallon du plaisir, parce que la lecture, c'est mon petit moment à moi. Et rien qu'à moi, je crois que c'est depuis que je suis enfant, c'est à moi. Mon livre, avec mon lit ou quelque chose comme ça quand j'étais petite, mon livre, mon fauteuil, c'est mon monde où je peux me refermer, je peux penser ce que je veux. En général, quand on lit, on ne nous dérange pas. Donc c'est vraiment voilà, ce plaisir-là, je vais dire. Et la clairière de la compréhension, c'est parce que c'est... Je lis de plus en plus des choses pour me comprendre et je vais plus vers la philosophie que je ne maîtrise pas toujours, ou des choses de psychologie. Et c'est vraiment, voilà, je suis à la clairière, mais il y a beaucoup de bois et beaucoup de branchages. Voilà, et je chute aussi. Voilà.
Et au niveau de l'arpentage de ce soir ?
L'arpentage, ben je me suis inscrite parce que le titre me plaisait bien, mais je faisais plus, comment je veux dire, une rédaction sur le titre plutôt que la compréhension de lecture. J'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur, mais voilà. La clairière de la compréhension, je vais être à la clairière. Voilà.
Voilà, ben, moi je m'appelle Bernard, je viens de Tintigny, donc j'ai choisi la source revigorante. Ben, pour moi, la lecture, ben, c'est vrai que c'est une source intarissable, hein, parce que on en a tout le temps, et revigorante, ben parce que c'est vraiment des choses où, ben, comme Anne disait, on se plonge dedans, on est vraiment dans notre monde, etc. Donc voilà, la lecture, pour moi, c'est important. Et alors, pourquoi aujourd'hui? L'arpentage, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'avais été voir déjà Olivier Armand, donc au Rox. Puis j'ai vu quelques vidéos de lui sur YouTube, avec d'autres, hein, comme Arthur Keller et tout ça. Enfin, c'est un petit peu un domaine que j'aime bien. Et puis l'arpentage, je me suis dit, ben voilà, c'est une possibilité d'échanger éventuellement avec les autres sur un sujet que j'apprécie.
Ok, merci. Il reste deux personnes, sauf si toi tu veux.
Marc.
Oui. Moi c'est Marc, je suis à Florentville depuis 4 ans, avant j'étais bruxellois, mais je suis revenu sur mes racines. Mes parents sont gourmets. L'arpentage, je ne connaissais pas du tout. Google ne m'a pas expliqué ce que c'était. Donc, je suis venu tout à fait dans l'inconnu, mais ça me convient. J'ai choisi la source revigorante. C'est un message d'espoir. Voilà.
Ok. Non, ok. On respecte la volonté de... Peut-être juste le prénom ?
Marie-Thérèse.
Ben on va pouvoir se mettre par deux. Donc vous pouvez vous mettre par exemple par deux ici, deux là, vous répartir.
Voilà, ça va être la mise en place, hein, je vais vous éviter cela. Un petit morceau de musique. Thank you. morceau de musique que vous venez d'entendre, eh bien, c'est Olivier Amand qui joue au piano. C'était lors de sa venue au Rock Saint-Rouvroy. On avait terminé l'interview, puis il voit piano, et voilà, il s'est mis au piano, et voilà ce que ça donne. Donc, Olivier Amand au piano.
Sous forme de ce qu'on appelle pop-corn, ça vous dit quelque chose? Donc, c'est pas un tour où chacun s'exprime, c'est vraiment, voilà. Ne dites pas tout, n'épuisez pas tout, donnez juste un élément de votre réflexion en commun, pour que tout le monde puisse avoir la parole. Okay. Donc la parole est à vous pour la couverture. Qu'est-ce qui vous a frappé, marqué, intrigué?
Oui. Environ 90.
Oui.
Très abordable.
Très abordable.
On ne doit pas dire trop, donc on dit ça.
Très bien.
Le mot tract nous a inspiré. Ça fait un peu justement journal de guerre et aussi militant, tract militant. Donc c'est intéressant.
Donc, vous pensez à un côté militant qu'il y aura peut-être dans le bouquin?
On se pose la question, ça donne envie de savoir.
Ok, super.
Moi, je trouvais que je connais pas la collection Tract Gallimard, et je me dis, ça doit être son premier bouquin, il n'a pas de sous, il fait un truc qui n'a pas dû lui goûter grand-chose à faire. Enfin, voilà, donc c'est la première impression que ça peut donner. Quoi.
Ok, le côté cheap, oui, voilà. En mot anglais.
Moi, c'est le mot antidote. Je me suis dit, ah, chouette, un bouquin sur la guérison. Guérison de quelque chose. Voilà.
Qui d'autre? Quoi d'autre?
C'est le numéro de 50, donc il y en a 49 autres avant, a priori. Et donc, on se demande qui, quoi.
Et comment?
Je ne devrais pas dire ça, vu qu'on travaille dans une bibliothèque, mais...
On s'est posé la même question.
Oui.
Mais on ne peut pas. On peut pas
regarder.
Vous verrez
si jamais votre curiosité, à un moment donné, a besoin d'être satisfaite, mais voilà.
Ah oui, mais nous, on nous a dit pas...
Je réponds à votre question. D'autres éléments?
Mais du coup, moi, c'est plutôt ça, parce que je connais un petit peu la collection-là, et je me dis, ah, chouette, voilà le 50e. Pas que j'ai lu les 49 autres, mais en tout cas, je les connais. Je fais vachement confiance, et je me réjouis à chaque fois qu'il y en a un qui sort, parce que je suis toujours très, très d'accord avec les idées qui sont comptées dans ces ouvrages-là.
Et moi, ce que je me suis dit aussi, on se demandait quelle date. C'est pour ça qu'à un moment, on a tourné, alors qu'on ne pouvait pas encore. Mais après,
vous
on l'a vu.
Yeux, vous avez tourné tout de suite. Hein, ça,
oui. Et donc, on a vu, il date de 2023. Et je me dis, tiens, c'est quand même maintenant que, en tout cas, moi, j'entends parler d'Olivier Amand. Ben oui, il est venu au Rock, je l'ai entendu à la radio. Ben donc, il y a au moins ça qui date déjà d'il y a 2 ans et demi. Mm-hmm. Voilà.
D'autres. Moi, par exemple, je me dis, c'est bizarre qu'ils aient mis Olivier Amand aussi grand. Est-ce que du coup c'est pour jouer un peu sur une notoriété qu'il avait déjà avant d'écrire ce petit bouquin, ou voilà, je me demande si c'était déjà quelqu'un de connu au moment où il a écrit ça, parce que on voit que le concept de robustesse est beaucoup plus petit que son nom.
Hein? Non, c'est toujours exactement la même chose, ils n'ont pas fait différent pour lui. Maintenant, okay. Si le nom est à rallonge, ils vont le diminuer pour qu'il passe sur 2 lignes, mais oui.
Ok. Donc ça n'a rien à voir avec
homogène.
Et alors justement, la police et la charte graphique, on va dire, ça fait très presse, ça fait très journal. Mm-hmm. Je trouve, il y a le côté, le papier, enfin la couleur qui n'est pas tout à fait blanche.
Le côté traite.
Et la police de caractère qui est assez presse écrite.
De votre avis, c'est plutôt attirant comme couverture ou pas?
Je pense que ça dépend pour qui. Mmh. À mon avis, pour ceux qui sentent une âme de militant, oui. Pour les autres, non. Pas du tout. Ça peut même être rébarbatif.
Agressif.
Mmh. Okay. Puis le fait que ce soit juste agrafé aussi fait peut-être un peu moins préparé. On se dit que c'est quelque chose de fait à la volée, ouais. Voilà, pour distribuer aux gens. Ce qui va avec l'esprit tract, bien sûr. Mais du coup, ça fait une espèce de simplicité qui peut être rebutante pour certaines personnes, j'imagine.
Il n'y a aucun agrafisme.
C'est vrai qu'il y a une ère où l'image est quand même assez importante. Voilà. Quatrième de couverture, à cette heure. Je ne sais pas si vous comprenez le wallon.
Un petit peu.
Je viens de ciné dans ces coins-là, donc. Quatrième de couverture, quelles sont vos observations?
Mais aussi, on est tout d'une traite, il faut relire.
Ok. Oui.
Hein, parce que on peut pas dire qu'on a tout compris à la première lecture. Hein, et puis il faut reprendre phrase par phrase après et reprendre chaque élément pour voilà, avoir un peu une idée de ce que ça peut raconter. Et puis il y a aussi des termes dedans où oui qu'on peut comprendre, mais par contre il parle sobriété heureuse, ça veut dire quoi? Donc là on est bien d'accord que sans lire le livre, ben, on ne sait pas ce que ça veut dire. Quoi.
Vous n'aviez jamais entendu ça avant, sobriété heureuse?
Non. Non, ce terme-là, non, je ne l'avais pas,
pas
entendu.
C'est Pierre Rabhi.
Oui, c'est, okay. C'est dans cette mouvance-là que c'est
en tout cas, Pierre Rabhi a écrit un livre qui s'appelle La sobriété heureuse.
Nous, on a aussi remarqué qu'il y a beaucoup de concepts dans le petit texte, enfin, le petit texte qui est long. Beaucoup de concepts différents sur la table et il propose aussi des solutions, peut-être, mais il y a toujours un questionnement. Quand il donne une solution, il y a une question qui revient derrière.
Mm-hmm. Il contrebalance chaque fois son concept, mais ça a l'air intéressant, ça donne envie de lire le livre.
Ok. Donc vous, le foisonnement de concepts ne vous a pas rebuté, vous donne plutôt envie de le lire.
Oui, mais ça fait un peu peur. Et les points d'interrogation ça fait que la personne ne dit pas simplement ses théories, elle invite au partage et au questionnement des autres, puisqu'elle met un point d'interrogation, donc elle permet aux autres, aux lecteurs, de répondre ou d'avoir une opinion, ou de la penser, du moins, oui.
Mm-hmm. Ok. Il y en a qui ont lu un peu son portrait,
oui,
qui ont lu
la petite biographie, elle apporte quelques gages de sérieux, on va dire. Voilà. Et la citation, elle par contre, elle est assez claire par rapport au corps du texte. Elle est plus accessible immédiatement, on se disait. Voilà.
Oui, c'est intéressant d'avoir un écrit comme ça de la part d'un biologiste aussi, parce que quand on lit, on se dit tiens, une nouvelle idéologie, pensée politique ici, mais de la part d'un biologiste. Quel lien est-ce qu'il va faire avec son travail sur le terrain? Quel lien il va rapporter aux différents concepts qu'il énonce ici? Donc oui, parce que souvent dans les tracts, de nouveau, c'est plutôt des sociologues ou peut-être des historiens des fois, mais biologistes, c'est quand même plus rare ici. Et moi, je voulais encore dire aussi, les deux premières phrases, on voit que Monsieur Amand, il a quand même le sens de la formule, parce que je ne connais pas la figure de style exactement ici, mais la nature menacée devient menaçante, notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Il parle vraiment beaucoup comme ça, il fait de la répétition, il laisse, mais c'est quand même percutant, donc on se dit, ah, je suis curieux d'aller voir un peu plus loin sa plume aussi, voir comment il écrit vraiment, et voilà.
Donc ça t'accroche la première,
première phrase. De plonger dedans, oui.
Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça viendrait
après,
de manière...
Après, je suis d'accord avec Bernard, ça devient vraiment plus dense et plus riche ici. Il dit, wow, ok, il ouvre la porte sur plein de choses, qu'est-ce qui se cache derrière? Mais les quatre premières petites phrases, il les a bien choisies pour nous intriguer, je trouve, sur l'ouvrage.
Mm-hmm. D'autres observations? Moi, ce qui m'a questionné, c'est la nature qui devient menaçante, parce que pour moi, menaçant, il y a une intention. Or, on dit souvent la nature se venge, alors qu'il n'y a aucune intention dans la nature, quoi. Et donc, est-ce que ce n'est pas plutôt menace? Voilà, ça, c'est une question que je me suis posée. Voilà. Eh bien, puisque vous êtes 7, je propose qu'on lise quand même peut-être les questions. Comme ça fait 8 pages par personne. Hein. Ça ira, 8 pages par personne?
Hein?
Sachez que...
Si après 5, ça va plus.
Voilà, moi parfois je fais lire des romans graphiques et donc on lit un peu plus, on lit jusqu'une vingtaine de pages. L'arpentage est une méthode qui peut être frustrante. Parce qu'on prend une lecture en plein milieu de quelque chose. On ne sait pas ce qu'il y avait avant, on ne sait pas ce qu'il y a après. Et donc parfois, j'ai arpenté notamment un roman « Paresse pour tous », je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben, vous prenez en plein milieu, vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, qui sont les personnages,
ah oui,
etc.
Pas, on ne contextualise pas.
Ah non, je vous donne
plonge,
une page.
Plonge,
voilà.
En même temps,
ouais. Vous pouvez peut-être vous mouiller un peu les poignets, mais ça c'est ce qu'on vient de faire, hein, avant de plonger dedans. Voilà. Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde, tu penses? Moi j'en ai un exemple.
Quand tu disais 8 pages par personne, c'est vraiment par personne, c'est pas par binôme.
Ben, je vous proposais du coup de travailler nous, peut-être oui. en binôme, vous. Hein, donc ça fait 7 personnes et un, donc 6 personnes et un binôme. Voilà. Donc on ne va pas lire la première, on va commencer vraiment ici, page 4. Qui veut commencer? Je sais que Camille le faisait un peu plus de manière anarchique, je pense. Elle donnait les feuilles aux gens.
Qui veut entamer? Voilà, on va laisser se faire l'organisation, hein, comme vous l'avez compris. Donc, il y a un certain nombre d'exemplaires de livres. Hein. Ici, on ne va pas le déchirer parce que c'est un petit livre. Et donc, chacun va lire un certain nombre de pages pendant un certain temps. Eh bien, que faire de mieux pendant ce temps que d'écouter un peu de musique?
Ouh, aïe, ju. Ouh, aïe, ju. Comment ça, ouh, aïe, ju? Durant de nombreux millénaires, y'a pas eu un seul millionnaire, t'as qu'à te renseigner. Chacun y allait de son petit effort pour la bouffe, les mômes, le confort et sans se chamailler. Puis vint l'homme au condi sapiens qui voulut jouer les grands princes et pour se démarquer. Des loups, des singes et des oraux trouva son truc, c'était le trop, mais y'en a qui ont triché. Du coup, ceux qui s'étaient fait faire doivent pêcher un peu plus de terre pour égaliser. Mais comme leur terre n'est plus à eux, ils bossent pour ceux qui ont le temps, eux, de l'égaliser. Qui, pour garder leur avantage, prennent tous les fruits de l'ouvrage contre un petit papier en couleur. Celui qui veut reprendre juste un fruit pour calmer sa faim du samedi, ben il rend son papier en double. Là, ça devient un peu plus obtus, surtout pour celui qui n'en peut plus d'avoir trop pêché. On lui dit, t'as ton fruit, c'est le pied. Si tu veux plus de petits papiers, ben t'as qu'à travailler. Le grand mot est lâché. Si tu veux gagner ta bouffe, danse. Si tu veux voir le Tour de France, trompe-toi pas de parallaxe. Si taxi sous j'ai des soucis, mélange pas tout et dis merci. Si tu veux pas la décadence, faudrait mieux garder la cadence. Va boire un pot, je m'occupe des taxes. Que comment quand j'ai payé, quand j'ai tant qu'on j'ai payé. Plus fort,
t'as qu'à travailler.
Plus longtemps,
t'as qu'à travailler.
Plus vite,
t'as qu'à travailler.
Bref, t'as qu'à travailler. Depuis l'heure et dès la maternelle, t'apprends la chanson nouvelle.
T'as qu'à travailler.
Les philosophes qui en foutent pas une, le cri du haut de leur tribune.
T'as qu'à travailler.
Les patriotes qui en ont bavé le clair en avec l'aumônier.
T'as qu'à travailler.
Y'a même des poètes félons qui reprennent à l'unisson.
T'as qu'à travailler.
Si tu veux être un homme, mon fils, une oisiveté et tous ses vices, t'as qu'à travailler. Patiente et tu pourras penser aux passions danses des pensionnés. Toi qui as travaillé. D'ici la traite jusqu'à la retraite, et si l'arthrite te prend en traître, t'as qu'à travailler ailleurs. Car dès que tu n'es plus combustible, le couperet tombe terrible, tu ne peux plus travailler. Chômeur. Celui qui ne veut plus courber les chines, être machin devant la machine, il est renvoyé. Y'en a même qui ont crié trop fort, et c'est tantôt qu'on leur ressort, et t'as qu'à travailler. À ceux-là qui disaient,
va pas travailler.
Tu veux être bien dans tes sabots,
t'as qu'à saboter.
Ton petit chef veut te faire la peau,
t'as qu'à tailler.
Dans l'art des assistés nantis, et s'il faut choisir dans la vie, tu peux toujours choisir la vie.
Va pas travailler.
Porte pas ta croix pour leur bannière,
va pas travailler.
Ta sueur te mène au suaire,
va pas travailler.
Moi je suis d'accord avec tout ça, mais je travaille, j'ai un contrat. Je vais quand même te le dire tout bas,
va pas travailler.
En tout cas moins fort,
va pas travailler.
Disons moins longtemps,
va pas travailler.
Et de toute façon, moins
vite, va pas travailler.
Va pas travailler. Pas moi ce que j'en dis,
va pas travailler.
Chacun sa merde,
va pas travailler.
Oh, le bouille-toi,
va pas travailler.
Alors voilà, il n'y a pas de captation des échanges parce que ça fuse un peu dans tous les sens et c'était assez difficile à suivre. D'ailleurs, la captation a été généralement assez difficile à suivre. Pour une prochaine fois, nous essayerons peut-être de faire ça en studio de manière à ce que tout le monde puisse intervenir avec une meilleure qualité sonore. Mais je pense que vous aurez toutefois un souvenir, un témoignage de cet arpentage à la bibliothèque de Florenville. Afin de pouvoir vous faire une idée, donc l'organisateur avait mis un grand papier gris. Il y avait écrit d'un côté « performance » et de l'autre côté « robustesse ». Et donc à chaque intervention d'un participant, il mettait un petit post-it avec quelques mots-clés, quelques concepts, en essayant de les disposer harmonieusement et de manière significative. Donc nous allons maintenant en arriver à la conclusion. Hein. Donc c'est une synthèse de ce qui a été dit au cours de cet arpentage. Écoutons plutôt.
Donc au niveau des concepts de la performance, on a dit qu'elle était possible en période d'abondance. Or, on sait qu'on va vers un peu moins d'abondance. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui provoque des conflits aujourd'hui, puisqu'il y a une guerre des ressources, puisqu'on sait qu'elles ne seront pas inépuisables. On peut lier ça avec l'extraction. On extrait beaucoup de matière, mais à l'autre bout de la chaîne, on extrait aussi beaucoup de résultats. On voit la concentration d'argent dans certaines mains. On suroptimise le lean management. Donc là, on essaye vraiment de travailler de manière ultra efficace. Et vous connaissez la différence entre l'efficience et l'efficacité ? Parce qu'on entend beaucoup efficience aujourd'hui.
But, c'est
l'efficacité et la performance du côté de l'efficience. Donc quand quelqu'un vous parle d'efficience, vous l'arrêtez, vous lui dites non, s'il te plaît. Soyons efficaces, pas efficients. Autre chose intéressante, c'est si une mesure devient une cible, elle n'est pas fiable. Aujourd'hui, tous nos politiques nous parlent de PIB tout le temps. Or, le PIB, c'est un instrument de mesure. Mais on voit que c'est devenu un résultat à atteindre. Et donc, il y a plein de choses qui découlent. Je ne sais plus, à un moment donné, on a parlé de... où est-ce que j'ai mis ça ? Quand on tirait quelque part, ça faisait des dégâts ailleurs.
Oui, c'est ça.
Le
réductionnisme.
Le réductionnisme. Réduire le bien-être finalement ou d'un pays ou d'une population à juste l'augmentation du PIB, on voit que ça ne marche pas. Parce que pour augmenter le PIB, on délocalise des entreprises pour avoir plus de profits, etc. Au niveau plutôt des différentes branches, on a parlé du travail, donc la compétition qui isole, du déséquilibre entre le travail et la vie, le fameux truc de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, c'est ce qu'on nous met dans la tête. Donc la performance, c'est peut-être pas quelque chose de si naturel que ça chez nous. C'est un modèle qu'on appelle notamment le néolibéralisme qui nous a mis ça en tête. Au niveau de l'école, la compétition nous pousse à chercher le confort individuel. Je suis guide au musée du capitalisme et je demande à chaque fois aux visiteurs, est-ce que vous avez des idées, des exemples du fait qu'on est dans un système qui exige qu'on maximise notre profit tous, parce que c'est ça le capitalisme, on doit essayer d'accumuler un maximum. Et il y a un jeune un jour qui dit, mes parents ne me disent pas étudie pour avoir un métier qui va t'épanouir, mais étudie pour avoir un métier qui va te rapporter. Alors que je suis sûr que les parents veulent le bien-être de leur enfant, mais on a réduit le bien-être très fort au fait d'avoir de l'argent. Donc on a parlé aussi de l'effet rebond. En gagnant en efficience ou en sobriété, parfois on va s'autoriser plus de choses. Et donc finalement on n'a rien gagné au final. Et alors un concept très important aussi, c'est que la performance finalement n'est pas le fonctionnement naturel des choses. Les animaux, les plantes, notre corps ne fonctionne pas de manière optimale. Et s'il fonctionne de manière optimale, à un moment donné ça pète. Les plantes qui n'utilisent qu'un pour cent, si je me souviens bien, c'est parce que il n'y a pas toujours du soleil, donc faire la photosynthèse, etc., il faut qu'elles puissent se garder des marges de manœuvre, parce que si elles travaillaient à flux tendu quand il y a moins de soleil, la photosynthèse ne marcherait plus. parler aussi que bah, les guerres sont finalement une recherche de la performance puisqu'elles permettent l'innovation. Et donc la performance recycle plein de choses. Alors comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Lui, il est convaincu que ce sera via une révolution profonde puisqu'elles sont antinomiques. Il est sûr qu'on va basculer et que c'est la pénurie, finalement, si j'ai bien compris, qui va nous obliger à basculer. Donc, on n'est pas capable de sortir de ce système de la performance. Pour lui, ce ne sera pas un retour en arrière puisqu'il y aura de l'innovation possible ici.
Oui. Il ne dit même pas on est sûr qu'on va basculer, il dit on a basculé, on est dans le basculement, et le tout c'est pas quand mais comment est-ce qu'on bascule.
Il y a la fameuse phrase de Gramsci, je ne sais pas si vous connaissez, l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à naître et entre les deux naissent les monstres. Je pense qu'on est dans cette période-là, quand on voit les Trump et tout ça qui sortent, c'est quand même le signal que le système performant est en crise, et qu'on va vers autre chose. Et alors ça, évidemment, Martin, effort intellectuel et courage politique. Donc, effectivement, et le système politique est peut-être plutôt du côté de la performance que de la robustesse, puisqu'il faut se faire élire tous les 5 ans. Donc on ne pense pas à long terme, on pense à être performant pour se faire réélire dans 5 ans. Au niveau de la robustesse, nourrir la diversité des solutions. Donc ça, c'est pour moi le contraire peut-être du réductionnisme. Il faut gaspiller.
Pas sortir du concept, du contexte. Oui, pas trop sortir ça du
contexte. Oui, mais... ok. Il y a aussi donc, le nouveau lien au végétal, nouvel air. Il parlait aussi des humains et des non-humains qu'on voit réapparaître chez un penseur qui m'en parle beaucoup, qui s'appelle Bruno Latour, qui dit... On a longtemps considéré la nature comme un décor, comme quelque chose à exploiter. Il va falloir, nous, revenir au milieu de la nature et arrêter de l'exploiter. Il y a cette notion d'adaptabilité, donc la diversité des solutions, ça veut dire qu'on pourra mobiliser l'une ou l'autre selon les besoins. Mais on aura plusieurs cordes à notre arc. Cette idée de la lenteur... Cette idée que finalement on arrive peut-être au même résultat que ce que la performance produit, mais que ça prend plus de temps. Je ne sais plus qui a parlé d'utiliser le temps pour préserver la matière, je crois que c'est toi Bernard. Et donc stable à court terme et viable à long terme, donc cette notion de temps est quand même importante dans la pensée de la robustesse. D'ailleurs la verbalisation, Bruno Latour dit aussi, on n'a plus le temps, prenons-le. Voilà, parce que si on veut aller trop vite, on va apporter des fausses solutions à des vrais problèmes. Et du coup, y a ce côté artistique qu'on opposait à... C'était quoi dans l'autre ?
Scientifique.
Scientifique, voilà, qui va rechercher plutôt la performance, alors que l'artistique va se questionner d'abord, avant d'apporter finalement... une forme de réponse ou de réflexion.
Des poètes plutôt que des ingénieurs.
Mais oui, mais moi j'allais dire justement, ça fait penser à ce qui a été dit il y a peu de temps, les poètes, on gouverne en poète ou en ingénieur, mais je trouve ça dommage de les opposer, ils sont complémentaires, les scientifiques et les artistes.
Il ne les oppose pas en plus directement dans son livre, lui, justement que le politique... l'éclairage scientifique n'a pas suffisamment d'impact dans le politique et que ce n'est pas suffisamment pris en compte. Il fait référence au GIEC ou même au Club de Rome, ils n'ont pas été pris au sérieux dans les années 70 et encore en 2026, c'est toujours pas le cas.
Club de Rome, tu peux expliquer ? Parce que tu poses la question, toi.
Oui, du coup, le Club de Rome.
Je connais pas personnellement ces gens-là, mais c'est un des premiers écrits qui vient et qui vient alerter sur les ressources finies justement de la planète. Que la croissance ne peut pas être infinie dans un monde qui est, lui, fini. Et un premier récit un peu écologiste qui vient inviter à freiner un petit peu le modèle et qui n'a pas du tout été pris au sérieux à l'époque. Et là, on en parle souvent depuis quelques années, moi je trouve qu'il est constamment remis là, tellement il est ultra contemporain, en fait, alors qu'il a plus de 50 ans.
Le Club de Rome, c'est des mécènes, des riches italiens. Et qui donnaient de l'argent pour différentes choses chaque année. Puis une année, ils ont décidé de donner un certain Denis Meadows,
Oui.
Et Donella.
Donella ou Donatella Meadows.
Et donc, pour étudier ça. Et donc, ils ont fait un modèle de la Terre avec 5-6 paramètres, vraiment pas grand-chose. Les ordinateurs n'étaient pas très performants à l'époque. Et ils ont effectivement prévu un effondrement pour le début du 21e siècle, là, je pense.
Et ce qui est préoccupant, c'est que tous les graphiques qu'ils ont faits, selon les différentes décennies, se vérifient. Hein. Donc, c'était de la prospective, mais ce n'était pas basé sur n'importe quoi.
Et donc, ça a été réétudié et confirmé en 2000, en 2010. Donc,
Et réétoffé avec d'autres limites planétaires actuellement, avec l'Anthropocène, etc.
Mais donc, en tout cas, il n'oppose pas scientifique et artiste.
Non.
Donc, maintenant, dans la performance, les scientifiques, ou en tout cas les ingénieurs, doivent rechercher la performance pour certains produits. Hein. Pas pour tous, puisqu'il y a quand même des choses où on nous dit qu'il ne faut pas que ce soit performant. Je ne sais pas si vous avez des exemples de ça. On en a parlé tantôt, le mot est sorti tantôt. Obsolescence programmée.
Ah, oui. Hein.
Par exemple, les ampoules, il se dit, il y a une légende qui dit qu'aux États-Unis, une ampoule brille depuis 100 ans sans discontinuer dans une caserne de pompiers, et que donc elle était quelque part performante. Les bas aussi.
Non, elle était robuste.
Hein. Elle était robuste.
Oui.
Robuste.
Oui, mais à l'époque, ils cherchaient quelque chose, en tout cas, qui soit le plus performant possible.
C'est les gens qui fabriquaient des ampoules qui ont dit, voilà, maintenant, elles dureront 1000 heures, alors qu'elles pouvaient en durer 10 000 ou 100 000, quoi.
Oui. Donc. Okay. Mais donc, il faudra rebasculer vers ça, mais comment est-ce qu'on fait? Puisque c'est contraire au système. Parce que le système, c'est de vendre et d'engager, d'engranger des profits.
Mais il dit que l'innovation doit se faire dans le sens de la robustesse, justement. Mm-hmm. Et donc, il faut chercher dans ce sens-là. Donc, voilà.
Ben, oui, et c'est aussi une preuve que finalement le système n'aime pas la robustesse. Le système économique est antinomique avec la robustesse. Le travail doit être un lieu d'épanouissement, remise en route de l'entraide, ça c'est un peu des trucs un peu faciles, hein, mais voilà. L'école doit être une coopération, ben, on le voit avec certaines pédagogies alternatives qui se mettent en place, c'est quand même pas la norme. Le fait que les points faibles éveillent et stimulent les échanges, ouvrent le débat, la coopération, augmentent leur regard critique, ça on en a peut-être besoin à l'ère des réseaux sociaux. On doit être performant, on doit vite aller mettre un commentaire, et je suis le premier à le faire. Voilà, plutôt que d'étayer sa pensée et de mettre un commentaire robuste. L'idée d'apprendre à vivre avec un stock constant, ben oui, on sait qu'on creuse dans les ressources, dans le stock de ressources pour les générations à venir. Et plus on creuse, plus ça va être difficile de reconstituer les stocks, évidemment. Plus il y a de la surpêche, plus ça va être difficile de refaire les stocks de poissons, parce que voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'innovation est un produit de la robustesse et non un carburant de la performance. Comment est-ce que vous analysez cette phrase-là ?
N'est pas ou ne doit pas.
Donc l'innovation dans la robustesse est un produit de la robustesse. Elle n'en est pas le moteur, comme c'est le cas dans la performance, le carburant.
Mais que la robustesse inspire l'innovation, du coup. C'est en observant ce qui est robuste qu'on innove, plutôt que de...
Que dans la performance, on est obligé d'innover pour augmenter la performance.
Oui, et que peut-être que dans la robustesse, il y a des moments où on se rendra compte qu'il ne faut pas innover.
Oui.
Moi, ça m'a un peu fait tiquer quand il parlait tantôt « nouveaux liens au végétal », etc. Il y a des populations, je pense qu'il y a des exemples au Cameroun, de gens qui vivaient dans une forêt et qui utilisaient la forêt de manière à rester à stock constant. Hein, il y a ce fameux... cette fameuse histoire de l'île de Pâques où les habitants auraient disparu parce qu'ils avaient coupé toutes les forêts, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et que donc la surexploitation mène finalement à la chute. Et je me demande, mais ça je ne suis pas sûr, s'il n'y a pas des exemples aussi où des gens qui ont fait des études montrant que quand une civilisation est trop optimisée, elle finit par chuter parce que ça la fragilise. Mais je ne C'est une idée qui me vient comme ça, mais je ne sais plus d'où elle vient. Donc, j'ai dû lire ça quelque part.
Mais il y a d'autres exemples qu'on peut critiquer aussi. Hein, quand il dit que les peuples faibles ne font pas la guerre, que c'est les riches uniquement. Mais il y en a qui ont fait des guerres avec des Sarbacanes. Hein.
Mm-hmm. Donc, oui. Oui, c'est vrai.
Ce n'est pas cohérent tout le temps. Hein.
Peut-être qu'il parle d'aujourd'hui encore, oui, il y a quand même des...
Mais ça fait peut-être un peu moins de dégâts qu'une grosse bombe nucléaire.
Oui. Oui, c'est peut-être une guerre qui fait moins de dégâts dans ce
c'est
cas.
Ça, mais... Je pense que c'est ça qu'il veut dire dans sa robustesse, mais
peut-être, oui.
Oui, puis une question de moyens peut-être aussi, parce qu'il parle que justement, lors des guerres, ben, ça ajoute à la performance, à les innovations techniques et des choses comme ça, mais si on n'a pas d'argent derrière, on ne sait peut-être pas le faire non plus. Ce n'est pas juste le fait de faire la guerre qui va apporter ça. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas le cas pour les pays.
Et puis quelle innovation ? Je veux dire, le Roundup qui vient de la guerre du Vietnam, est-ce que c'est finalement une bonne chose ? On peut se poser la question. Une chose aussi, un principe qui est quand même assez intéressant chez lui, mais chez plein d'autres, c'est cette remise en cause de la propriété. Alors qu'on est quand même formaté pour être propriétaire, parce que la propriété offre une sécurité. En tout cas, dans nos esprits. Voilà. Avoir, c'est pouvoir être, finalement. C'est un peu ça. Il nous reste 10 minutes. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qu'il y avait dans le bouquin. Si vous voulez voir, si vous n'avez pas vu la performance au ROX, elle est visible en ligne. Je pense qu'il faut taper... C'est comment le truc de Christelle Luxembourg Créative. J'allais dire Liège Créative. Luxembourg Créative, ROX, et vous allez pouvoir voir tout. Il donnait peut-être plus d'exemples dans son intervention.
Oui, un petit peu, mais enfin, c'est surtout que c'est vivant, quoi. Hein. Donc, enfin, on retrouve quand même dans l'équilibre ici la majeure partie des choses qui ont été dites au ROX, hein, pour ceux qui y étaient aussi. Mm-hmm. Hein, et d'ailleurs, quand on la durée, si on lit le livre, on est à peu près dans la durée de la conférence aussi, je pense. Hein, donc,
à peu près, oui.
Oui, la seule différence, c'est l'Orval que lui avait au début et qu'il n'y a pas ici.
Oui, voilà. Oui, puis il est agréable à entendre quand même. Hein, oui. Et la façon dont c'était mené avec la personne qui l'interviewait, tout ça, c'était pas trop mal fait. Mm-hmm.
Pour terminer, on voulait vous proposer avec Martin, on avait pensé à ça, vous demander d'essayer d'identifier un moment, un domaine, une pratique que vous avez dans votre vie où finalement ben, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt sur le registre de la performance et de voir si vous aimeriez le transformer en quelque chose de plus robuste et qu'est-ce que ça pourrait donner, d'imaginer ce que ça pourrait donner.
Ben déjà, moi, j'aurais besoin qu'on redéfinisse vraiment performance et robustesse. Mmh.
Quelqu'un peut le faire ?
Moi, je trouve que, si je peux me permettre, hein, je trouve que le terme robustesse, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. Hein, pour durer dans le temps, dans un état qui est de plus en plus instable. Et en permettant aux gens, ben, le terme adaptabilité, pour moi, est bien. Parce que qu'est-ce qui doit être adaptable ? C'est nous, c'est notre culture, notre industrie, etc. Tout doit être adaptable pour pouvoir réagir par rapport à ce monde instable. Que la performance, eh bien, c'est justement comme on parle d'abondance, avec le fait qu'on a tout. Hein, donc finalement, comme on a tout, ben, on s'en moque de durer dans le temps ou pas. Hein, on produit, on consomme, etc. Quoi, hein, okay. Donc on a un petit peu les deux. Et alors dans le cas là, ou dans la performance, on a des gens qui sont vraiment très, très cadenassés dans un travail, dans une chose comme ça. Quoi, hein, et qu'avec l'adaptabilité, évidemment, on doit pouvoir s'ouvrir à beaucoup plus de solutions. Quoi.
Mm-hmm. Moi, je vois la performance comme une compétition permanente, toujours aller plus, et la robustesse, justement, l'être humain qui essaye d'être robuste et résister justement à cet appât malsain qui le conduit à sa perte un petit peu d'humanité. Enfin, voilà, mm-hmm. On voit ça comme
ça. J'aime encore bien quand il parlait de résilience, c'est un concept fort à la mode, mm-hmm. On tombe. Et avec résilience, on se relève. Avec la robustesse, on ne tombe pas.
C'est
pas mal.
Et donc, si vous avez l'occasion de regarder des discussions entre Arthur Keller, qui parle de la résilience, et de Olivier Hamon, qui parle de la robustesse, c'est intéressant parce que Hein, ils ont la même base, on peut dire, de monde instable, etc. Mm-hmm. Mais voilà, hein, donc la résilience, on reste plus dans l'adaptation, et la robustesse, on va vers l'adaptabilité. Mm-hmm. Donc c'est intéressant de voir des petits débats entre eux.
Et donc, qu'est-ce qu'on change de performant à robuste? C'était ça ta question?
Dans quel registre de nos vies on considère qu'on est performant? Et comment est-ce qu'on pourrait aller vers plus de robustesse dans...
Simplement nos voitures individuelles et prendre plus les transports en commun, faire du vélo et tout ça.
Enfin, faire la sieste.
Mm-hmm. Oui, parce que finalement, la voiture, c'est ce qu'il y a de plus performant.
Performant,
mais dans le sens, on la prend quand on veut. Elle nous amène plus ou moins rapidement, sauf si on va au Luxembourg, là où on doit aller. Hein. Et il y a cette notion aussi de propriété. Tandis que là, c'est même pas la propriété d'usage, c'est simplement l'usage. Hein. Il y a des réflexions autour de l'habitat, par exemple, aussi. Voilà, on doit avoir une belle maison. Bah, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt avoir juste l'usage? Je crois que c'est Vincent Liéger qui parle de ça. Quelqu'un qui porte un projet de décroissance et qui dit on pourrait simplement avoir un droit de tirage sur les choses. Donc parce que vous habitez en Belgique et que vous avez des papiers, vous êtes reconnu, etc., là vous auriez droit à 30 mètres carrés par habitant qui vous sont alloués par une collectivité, je ne sais pas laquelle. Hein. Donc vous n'êtes plus propriétaire, mais c'est la collectivité, on a parlé ici du collectif, hein, qui vous donne l'usage de quelque chose qui finalement lui appartient. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les communs, le concept des communs.
C'est comme au Moyen-Âge, la forêt où les gens pouvaient aller glaner avec les cochons parce qu'elle appartenait à tout le monde.
Voilà, c'est que ça n'appartient à personne et ça appartient à tout le monde en même temps. Donc c'est effectivement la forêt où on pouvait aller chercher du bois, hein, pour se chauffer, et finalement il n'y avait pas de commerce autour de ça. Donc on prenait juste ce dont on avait besoin et on s'en satisfaisait. Ça peut être les pâtures aussi, ce qui crée d'ailleurs en Afrique parfois des conflits entre des peuplades différentes, entre des sédentaires et des nomades, parce que les sédentaires ont dit ça c'est à nous, et les nomades viennent faire paître leur troupeau, hein, donc ça crée voilà, des tensions. Vous avez déjà visité le musée du capitalisme ? Il y aura peut-être à Bastogne en 2027. Je sais que ce n'est pas tout près de chez vous, Bastogne. Mais... D'autres exemples où vous trouvez qu'on vous pousse à la performance ou vous rêvez de performance alors qu'il serait peut-être mieux d'être robuste?
On parlait de transport en commun. C'est clair qu'on a besoin d'une voiture. Si on habite dans un village ou même en habitant à Florentville. Et donc c'est certain qu'un réseau de transport en commun, ce serait beaucoup plus performant, plus robuste.
Plus robuste, oui.
Mais il n'y est pas, donc ça, ce serait vraiment une bonne chose que ça évolue dans ce sens-là.
Moi, personnellement, ça, ce qui m'importe beaucoup dans tout ça, peut-être quelque chose dont on a parlé là, c'est au niveau du monde du travail. Hein, du monde du travail, où on se trouve maintenant dans des situations actuelles où on a de plus en plus de gens en burn-out, etc. Parce que pourquoi ? Parce qu'on est vers la performance, on est vers le manque d'interaction entre les gens, etc. Et le fait de pouvoir accéder à des entreprises, des administrations robustes, eh bien, c'est de justement pouvoir donner une façon de travailler, une aire de travail pour les gens qui sera plus agréable, plus durable.
Il parle du salaire à vie ou du salaire universel justement pour y arriver plus facilement à ça, où les gens seraient plus dans la performance à devoir aller travailler à tout prix pour aller chercher leur salaire,
oui.
Mais en revanche, ils iraient dans un travail qui les épanouirait,
oui.
Dans un premier temps, où il y aurait moins de désengagement. Contrairement à ce qu'on pense, il y aurait pas non plus, ce serait pas une invitation à la paresse. Ça a été étudié visiblement. Donc, Et on resterait plus longtemps dans son emploi, on le ferait sans doute peut-être un petit peu mieux,
oui.
Mieux dans le sens je comprends.
Et là, il disait qu'il y avait un économiste, Bernard Friot, qui disait passer du tout travail mérite salaire à tout salaire mérite travail. Mmh. Mmh. Donc c'est ça aussi de revaloriser le travail, l'épanouissement au travail, où on ne travaillerait pas que pour
aller gagner sa vie avec les sabots de plomb, et plutôt que d'avoir un salaire pour aller...
Enfin, on se rend compte, enfin, à mon âge, je vois l'évolution qu'il y a, la tension au travail qu'il peut y avoir, entre ce qu'on pouvait nous demander dans le temps par rapport à ce qu'on nous demande en finalité maintenant, quoi. C'est une pression quand même importante sur les gens, c'est terrible.
Et c'est l'objet de la grève de maintenant, avec les statuts et les CDI.
Oui.
Un statut est beaucoup plus robuste que les CDI, qui sont plus performants.
Il y a aussi aujourd'hui toutes les primes qu'on donne aux résultats, etc. C'est la recherche de la performance pure. On en parlait tantôt parce qu'on prépare ce qu'on appelle la semaine sociale du MOOC. Si ça vous dit de venir, c'est au mois d'avril du côté de Charleroi. Et on va faire donc ces 2 jours sur l'économie sociale et solidaire. Et je leur parlais d'une bière à Saint-Aude qui s'appelle BR. Et ça veut dire banquier repenti. Et je prends souvent l'exemple des banquiers parce que les banquiers, avant, à limite, au moment où les banques étaient robustes, où elles ne cherchaient pas la performance, puisque la CGER, le Crédit Communal, ont tenu pendant plus de 100 ans sans aucun problème. Et c'est quand elles ont été transformées par le capitalisme, néolibéralisme en banque privée.
C'est les socialistes qui ont vendu la CGR.
Oui, c'est le système capitaliste. On a privatisé les banques.
Ça n'existe pas, les socialistes.
Parce qu'avant, les banques ont été créées en fonction des besoins des gens. On a créé le crédit agricole, on a créé le crédit à l'industrie quand il y avait besoin. D'ailleurs, ils ont créé, c'est lequel ? C'est pas le crédit communal, c'est la CGR qui a été créée au moment où il y avait une révolte, des révoltes en Europe vers 1850. Et on a créé ça pour permettre aux gens de passer les périodes de crise, justement. Parce que les crises engendrent les révolutions, quand il y a des famines, etc. Voilà. Et donc, on créait ça selon les besoins. Et puis un jour, on a dit, l'État n'a pas à s'occuper de ça, c'est le privé qui doit le faire. Le
pire que ça, la CGR était self-supporting, qu'il n'y avait pas d'actionnaire du tout. Mm-hmm. Et puis les socialistes ont dit, on a un trou dans le budget, on prend la main dessus et puis on va le vendre.
Mm-hmm. Et dans un système robuste, les banquiers, ils aidaient les gens à investir leur petite épargne. Et cette épargne servait à développer des choses dans la collectivité. Et donc leur métier, c'était finalement d'aider les gens, de rendre un service aux gens. Et dans la performance, le service qui rentre, c'est de ponctionner un max de pognon pour les actionnaires au-dessus. Et donc là, ils doivent être performants pour ceux du dessus. Et donc, je trouve que ce système, ce truc de la banque est quand même assez intéressant. Et pendant que vous lisiez, je flânais dans les rayons pour essayer de trouver Zai Zai de Fab Caro.
Ouais.
Je ne l'ai pas trouvé. Mais je suis tombé sur le bouquin d'Aline Farès, qui, je ne sais plus, c'est comment se débarrasser de la finance. Pourquoi il faut se débarrasser de la finance ? Aline Farès a travaillé pour Dexia au moment de la crise bancaire de 2008, et maintenant elle est au CADTM. Donc c'est un bouquin que je peux vous recommander, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé.
Et moi j'ai regardé dans le catalogue et dans le réseau des bibliothèques, en tout il y a 4 livres de Olivier Hamon. Voilà, donc celui-ci. Nous, on n'a que celui-là, mais il y en a 3 autres qui sont dans le réseau.
Comment s'appelle ce bouquin ? J'ai fait la photo. La machine à détruire. Pourquoi il faut en finir avec la finance ? C'est un roman graphique. Voilà, d'autres exemples où on vous demande d'être performant et...
Moi, c'est un peu flou, mais... Oui, c'est un peu flou, surtout à cette heure-ci, mais c'est plus dans l'idée du rapport au temps. Mmh. Voilà, je sais pas très bien, mais je sens qu'il y a un truc dans le rapport au temps qui peut être amélioré dans l'objectif de robustesse. Et j'ai en filigrane une phrase que j'ai entendue, prendre le temps, c'est en avoir à donner. Voilà. Je laisse ça là parce que je sais pas réfléchir plus là.
C'est bien, tu nous laisses quelque chose. Il y a des exemples où maintenant on travaille 4 jours par semaine dans certaines entreprises et ils se sont rendus compte qu'on était plus productif quand on faisait ça. Mais donc, finalement, on est plus performant. On est peut-être plus robuste parce qu'on a plus de temps de repos.
Mais la performance, pas. Le temps, c'est comme le pain, il faut en garder pour demain.
Ah, bah, tu en auras.
Oui, dans le temps.
Ah,
bah,
ouais.
le temps arrive après.
Ah, mais effectivement, il y a aussi les hôpitaux. Ben, on l'a vu pendant la crise du Covid. Hein. Mm-hmm. On est tellement à flux tendu dans les lits. Je crois que c'est Maggie de Bloch qui a un peu mis ça en place, ou en tout cas accéléré le mouvement. Ben, dans un modèle robuste, on aurait des lits en suffisance pour répondre à des crises comme celles qu'on a connues. Et là, maintenant, il parle d'un nouveau virus qui vient.
Il y en a
de... Oui.
Plus virulent que l'autre.
Oui, oui. Donc, on verra. Mmh. Mais...
Le coronavirus,
ça que... Un virus respiratoire, je ne sais pas.
Je crois que c'est un variant de la grippe qui est différente. Quelque chose qui s'est renourri, comme ils disent, la grippe, elle fait le tour du monde. Oui, elle s'est renourrie en Inde, et donc elle a varié un petit peu, un truc comme ça, mais...
Bah, ici, la sagesse populaire nous dirait, par exemple, aussi, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, ça pourrait aussi être... Je pense que les anciens étaient vraiment relativement robustes.
La diversification.
Oui, parce que c'est ça, oui.
Dans l'agriculture, vraiment, on parle de permaculture, on parle de virer les monocultures pour faire de la variété. Et c'est plus résilient, enfin... Plus robuste, pardon.
Oui, plus robuste, parce que si on a, ben, on voit bien actuellement, par exemple, les maladies du bétail, ben, y a des gens, ils font que de l'élevage de bétail. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils perdent complètement toute leur exploitation. Alors que, dans le temps, qu'est-ce qui se passait? Ben, on avait 5 vaches, on avait 2 moutons, on avait 3 moutons, on faisait du fruit, on faisait des céréales, on faisait un petit peu tout. Et chacun faisait ça séparément. Et donc, quand il y avait... une épidémie, quelque chose, c'était pas grave. Ou alors, quand il y avait la grêle sur quelque chose, c'était moins grave, parce que on avait le reste, finalement, pour pouvoir survivre. Et la robustesse, c'est vraiment ça, quoi.
C'est pareil pour les slasheuses, comme Isabelle, qui ont plusieurs compétences, plusieurs cordes à leur arc aussi. Si on perd un emploi ou autre chose demain, on a tous les autres sur lesquels on peut se reposer et on peut aller...
Et en plus des soft skills.
Transposable à l'infini, en fait, cette théorie.
Il y a aussi toute la question des spécialisations. Aujourd'hui, on travaille plus et finalement, ce qu'on travaille plus, ben, on l'utilise pour mettre de l'essence dans sa bagnole, pour la payer, pour payer des crèches, etc. Hein. Voilà. Et dès qu'il y a un petit problème quelque part, ben, ça coince parce qu'on est plus robuste. En fait, c'est ça, la robustesse, c'est se garder une marge de manœuvre et avoir une base suffisamment large pour pouvoir encaisser les chocs et, comme tu disais, ne pas tomber.
C'est un équilibre, il faut un équilibre. Quand c'est déséquilibré, automatiquement, il y a d'un côté que ça va tomber. Donc il faut un équilibre entre la performance et la robustesse automatiquement. Donc tout est équilibre dans la vie. Donc,
c'est une belle parole de fin.
Ouais. C'est une belle parole de fin. FIN.
Oui.
Parce que l'équilibre
alimentaire, vous avez. Je pense que FIM aussi.
Ben voilà. Merci. C'est la première fois que je le faisais sous cette forme-là, donc je suis désolé, j'ai peut-être un peu pataugé. J'espère que vous en retirerez quelque chose. Voilà, soyons robustes. Mais je pense que ça se réfléchit aussi, hein, la robustesse. C'est que autour de nous, on peut commencer à essayer d'en parler. Et avoir, c'est con, mais je prends un exemple bête. Avoir des gens autour de soi sur qui on peut compter pour telle ou telle chose, ben, parfois ça vous sauve pour des trucs. Hein. Et donc, retisser du lien, recréer des choses, ça peut aussi nous permettre à terme de gagner en robustesse.
Chers auditeuristes de Radio Sud, nous voici arrivés à la fin de cette émission consacrée donc au livre de Olivier Hamant, à l'arpentage du livre de Olivier Hamant qui oppose la robustesse à la performance. C'était un arpentage tout à fait particulier, nous n'avons déchiré aucun livre. Cela se passait à la bibliothèque de Florenville, avec de nombreux partenaires que j'ai cités en début d'émission. N'hésitez pas à aller consulter leur site internet pour voir leurs prochaines organisations. À très bientôt avec mes salutations les plus radiophoniques.